Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur avec les psaumes 52 jusqu'au verset 55. Nous présentons nos excuses par rapport à la censure que nous avons subie la semaine précédente. L'étude biblique a connu un temps où ça a été enlevé de YouTube, puisqu'on avait eu un temps de prière pour détruire les œuvres de la dictature sanitaire actuelle. Et je crois que ça n'a pas dû plaire aux démons et qui ont donné des ordres à leurs serviteurs pour nous censurer. Et nous avons remis cette étude, mais sans cette partie-là, pour que ceux qui n'avaient pas suivi l'étude biblique puissent se rattraper. Voilà, c'est déjà remis. Donc nous continuons donc avec le psaume 52.
Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable, en présence de tes fidèles.
Amen. Voilà. Il est question de la fin du tyran, la fin d'un tyran. Donc, on nous explique dans ce psaume que le tyran finira mal. Et nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire. On a l'exemple de Napoléon, on a l'exemple de Hitler, on a l'exemple de Sanhérib. Donc toutes ces personnes-là qui veulent s'imposer sur les autres avec méchanceté finissent mal. On a l'exemple de Mobutu, de plein d'autres dictateurs, Ceausescu. Ces gens-là, Dieu finit par régler leur compte un jour ou l'autre. Et c'est des gens qui sont sans Dieu, qui ne pensent qu'à faire du mal. C'est écrit au verset 6, « Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. » Donc il y aura un moment où les tyrans seront vaincus pour toujours. Et dans le cas de chaque tyran, il y a un moment où ils sont arrêtés par Dieu. Donc c'est pourquoi ne nous laissons pas déstabiliser par ce que nous voyons aujourd'hui, qui donne l'impression que les tyrans, les Klaus Schwab, les Bill Gates, les George Soros, les Obama et consorts, ça donne l'impression qu'ils sont vainqueurs. Les Macron, ça donne l'impression que c'est eux qui ont le pouvoir sur la terre, mais en réalité, c'est Dieu qui gère tout, qui contrôle tout. Ils ont leur temps et Dieu leur montrera que c'est lui qui est Dieu. Il nous est donné comme exhortation la partie suivante. Les justes le verront, c'est-à-dire les justes verront quand le méchant sera déraciné. Il nous dit, verset 7 aussi, « Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Il te déracinera. » Les méchants paraissent forts. Comme je le dis souvent, En 1940, il faut voir les films pour les films documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale pour voir la gloire d'Hitler en 1940. C'était comme le dieu de ce monde. Les gens sont sortis 6 heures avant l'heure fixée pour le voir. Sortir du balcon de l'institution où il devait être. Les gens sont sortis 6 heures avant, sans qu'on les paye, d'eux-mêmes, tellement ils étaient fiers de leur prince qui venait de vaincre la France, qui avait fait fuir les Anglais, parce que les Anglais étaient venus pour soutenir les Français. Les Anglais avaient fui, ils avaient pris les bateaux à Dunkerque pour rentrer en Angleterre. Et Hitler était vainqueur. De l'autre côté, Pétain signe l'armistice. Donc Hitler était le plus fort. Il était comme un dieu. Mais ça n'a pas duré 5 ans. Vous voyez, ça n'a pas duré 5 ans. Vous auriez demandé à quelqu'un qui vivait la gloire d'Hitler en 1940 combien de temps ça allait durer. Tout ceci, il allait vous dire 50 ans. Donc il allait vous dire presque la vie, le nombre d'années qui restait à la vie d'Hitler, normalement, quoi. Mais c'est négliger la réalité de Dieu. Dieu est tout-puissant, c'est lui qui règne. Ces gens-là ont leur temps. Ne nous laissons pas impressionner par les dictatures qui émergent aujourd'hui au Canada, en Australie. Ne nous laissons pas impressionner par cela. Ça va passer. On a vu Sarko, quand il avait le pouvoir, non seulement il était devenu président, mais il était passé par le ministère de l'Intérieur. Donc il connaissait tous les dossiers. On pensait qu'il était un président tout-puissant par rapport à son passé, mais il s'est fait battre aux élections. Aujourd'hui, il a été condamné, même si on sait qu'il ne fera pas la prison, mais c'est une première, une telle condamnation. Ça montre que ce que dit la Bible est vrai. Il est écrit, tu seras déraciné. Il a été déraciné. Et qu'est-ce qu'on nous conseille par la suite? Verset 10. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom. Parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. David dit, je suis comme un olivier verdoyant, alors que sa condition était difficile. Vous savez, nous sommes dans le temps où David est en train de fuir. Saül cherche à le tuer, il fuit de lieu en lieu. Donc ce psaume est composé en raison d'une affaire, donc quand il a fui auprès d'Abimelech, Akimelech, il y a Dog, l'Édomite, qui est parti le trahir. Donc David est dans une situation d'instabilité, mais il dit qu'il est comme un olivier verdoyant. C'est l'appel que Dieu nous donne, nous fait à nous tous, c'est de nous considérer comme des oliviers verdoyants. Peu importe que tu sois hospitalisé, peu importe que tu sois dans une souffrance physique, peu importe que tu sois dans une difficulté financière, tu es un olivier verdoyant. C'est la vie. Au fait, Dieu nous adresse la vérité. Vous savez, il y a l'apparence et la vérité dans toute chose. On peut voir quelqu'un de très riche, mais on ne sait pas quel problème il a dans sa maison. Donc, il y a l'apparence et la vérité. L'apparence, c'est qu'on on peut souffrir. L'apparence, c'est qu'on peut manquer. Mais la réalité, c'est qu'on est un olivier verdoyant. Et tant qu'on croit à cela, on vivra cela. Ainsi, on pourra dire comme David, je te louerai toujours parce que tu as agi. Donc, tant qu'on croit qu'on est un olivier verdoyant, malgré ce qu'on peut vivre, Dieu viendra défendre notre foi. C'est la foi qui triomphe de ce monde. David nous appelle à nous considérer comme des oliviers verdoyants. Peu importe ce qui arrive, et à le confesser. Tu te réveilles le matin, tu dis, je suis un olivier verdoyant. Tout ce qui est contre mon bonheur n'est qu'apparence. La vérité, la réalité, c'est que c'est Dieu qui tient ma vie dans sa main. Même le résultat qu'on peut te donner venant d'un laboratoire pour te dire que tu as ceci ou cela n'est qu'une apparence. Ta santé, c'est Dieu. C'est Dieu qui tient ta santé dans sa main. Combien de chrétiens n'ont-ils pas vu au moment où on a finalement voulu les opérer que la chose était déjà réglée et l'opération n'a pas eu lieu? Et même si on t'opère, ce n'est pas grave. Le contrôle, c'est Dieu qui... C'est ta santé, c'est entre les mains de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on pense autrement. Il veut qu'on pense qu'on est chez lui. Et c'est ce qui est vrai. Colossiens 3:3 le dit que notre vie est cachée en Christ, avec Dieu. Il veut qu'on croie fermement cela et nous verrons cela s'accomplir. Peu importe les chemins que ça prend, il veut qu'on croie. Qu'on ait un olivier verdoyant, c'est très important, bien-aimé. Réjouissons-nous à tout moment. C'est pourquoi c'est écrit, soyez toujours joyeux. Mais tu veux être joyeux pourquoi? Parce que tu souffres? Non! Tu es joyeux parce que tu es un olivier verdoyant en réalité, même si en apparence, je ne dis pas que cette apparence-là ne fait pas mal. Elle fait mal. Mais la réalité est que on est en position élevée avec le Seigneur. Et ça, nous devons le manifester par la louange, par la joie. C'est ainsi que ça deviendra réalité maintenant visible. Donc c'est une réalité cachée. Pour qu'elle devienne visible, elle doit être confessée par la foi. Amen. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5:4, c'est la foi qui triomphe de ce monde. Plus on a la foi, plus on est vainqueur des apparences que nous pouvons vivre dans ce monde, mais qui font mal, qui donnent l'impression d'être plus réels que ce que nous sommes vraiment en réalité. Alors, pour triompher de cette apparence qui semble plus réelle que la réalité, il faut la foi. Et la foi va ramener ta réalité cachée à surplomber les apparences qui te mettent la pression. Au nom de Jésus-Christ. Nous passons au psaume 53. Où on nous parle des insensés.
L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre lui, contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.
Amen, amen. On nous parle de la déroute de l'insensé. L'insensé, c'est celui qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est un fou. C'est ce que dit la Bible, c'est un fou. Comment il peut dire qu'il n'y a point de Dieu? Et la conséquence d'une telle attitude, c'est quoi? C'est la corruption. Donc quand quelqu'un dans son cœur ne reconnaît pas Dieu, la corruption se saisit de lui directement. C'est pourquoi il est écrit, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Ce que nous sommes en train de lire se trouve dans Romains 1, 18. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer là? On est en train de nous expliquer que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Satan se saisit de lui et va lui faire faire les péchés les plus abominables, et notamment transgenre, homosexualité. Aujourd'hui, on nous parle des expériences autorisées à faire des chimères. Des chimères, c'est-à-dire des êtres mi-hommes, mi-animaux. Donc, c'est, aujourd'hui, nos pays ont donné le droit, l'autorisation aux scientifiques de faire de telles expériences. D'ailleurs, dernièrement, on a greffé le foie d'un cochon modifié à un homme. Donc, ça veut dire que pour lui greffer ce foie-là a dû certainement être travaillé. Peut-être on a dû mélanger un cochon à un homme, produire une sorte de foie qui aille aux deux et donner ça maintenant à un homme. Donc, ça, nos États viennent d'autoriser, mais quand ça passe au Parlement, vous n'êtes pas au courant, ils viennent d'autoriser ce genre d'expérience, donc à produire des chimères, des monstres. Et c'est ça que nous explique la Bible. Donc, quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, toutes les vannes sont ouvertes pour toutes sortes de péchés abominables. C'est la notion de Dieu qui nous retient à aller dans la descente, dans l'escalade satanique. Quand tu crois que Dieu existe, même si tu n'as pas encore une pratique régulière de prière et de lecture de la parole, il y a les vannes de la bêtise qui s'ouvrent. Grande ouverte. Et c'est ce qui explique qu'on dégénère. Nous allons lire ça dans Romains 1, 18. L'apôtre Paul en parle. Quand on ne croit pas en Dieu, eh bien, on dérive dans toutes sortes de péchés abominables. Pour prouver, et cela prouve en soi, en eux-mêmes, ces péchés-là, que nous sommes devenus fous dans tout ce que nous faisons. Romains 1, 18, jusqu'à ce que j'arrête.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Voilà. Donc là où il n'y a pas la prise de conscience de l'existence de Dieu, les péchés prolifèrent tranquillement, sans frein. Nous ne sommes pas en train de dire que là où il y a la notion de Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a toujours le péché. Mais quand c'est commis, c'est considéré comme mal. Alors que là où il n'y a pas la notion de Dieu, quand le péché est commis, il n'est pas considéré comme mal. D'où il n'y a pas de frein. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, dans les milieux occidentaux, il y a déjà des enfants de 12 ans, 11 ans, 13 ans qui sont dans des péchés abominables. Il y a toutes sortes de commerces d'enfants pour les prostituées. Il y a des dossiers comme ça qui sont cachés que Donald Trump devait éventer, devait sortir. Il y a, là, il y a Carl Zero qui en a parlé dernièrement. Il y a tout un réseau qui tourne autour de Clinton, celui qui est mort là, Epstein. Donc, tous ces dossiers-là sur la pédocriminalité, vous vous dites, mais qu'est-ce que ces gens-là qui sont milliardaires, millionnaires, ont à aller abuser des enfants? Mais c'est dû au manque de frein. Quand il n'y a pas la notion de Dieu, il n'y a plus de frein, le péché, il devient de plus en plus abominable. Ils enlèvent des enfants à gauche, à droite, et ils vont abuser des enfants à partir de l'âge de 2 ans. Il y a le témoignage de Karen Mulder, un ancien mannequin, qui explique comment dès l'âge de 4 ans, elle a été abusée dans ces systèmes-là. On se demande comment ces gens-là en arrivent à ça, mais l'explication est là, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Dieu existe. Ils le savent, Romains 1 nous dit, mais ils tiennent ça caché, ils ne veulent pas accepter ça. Et du coup, Dieu les a laissés à leur sens réprouvé, et il a laissé Satan se saisir d'eux pour produire les péchés les plus abominables. C'est ce qu'il nous est expliqué dans le psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc quand tu te dis ça, tu es devenu insensé parce que tu as des moyens pour voir que Dieu existe. Un des moyens, c'est le verset 3. Dieu du haut des cieux. Pourquoi on précise les cieux? Et vous voyez que dans Romains, on nous parle aussi des ouvrages de Dieu. Donc les cieux montre la gloire de Dieu, même si ce n'est pas encore très clair la notion de Dieu. Mais quand tu regardes le ciel, je me souviens, j'avais l'âge de 10 ans. Je n'avais pas vraiment la notion de Dieu. Il y avait la culture dans laquelle nous avons été tous élevés, la culture catholique, c'est tout. Mais on vivait comme des païens, on ne s'intéressait pas vraiment à Dieu. Mais quand je regardais les étoiles, je regardais la lune, comme on avait quand même une petite instruction à l'école. On savait déjà que la lune, ce n'était pas une petite lampe, c'était une sorte de planète, de petite planète. C'est ça, on savait ça. On savait ce qu'était le soleil. Alors quand je regardais les étoiles, on savait aussi que les étoiles, c'était comme d'autres soleils. Quand je regardais tout ça la nuit, je regardais la lune, il y a comme une sorte de puissance qui s'imposait sur moi. C'est comme si tu deviens silencieux devant ça. C'est tellement grand. C'est pourquoi on dit Dieu du haut des cieux. Donc même si tu n'as pas la notion de Dieu, mais regarde les cieux. Les cieux doivent te faire incliner, te dire non, c'est vrai que je ne connais pas Dieu, mais ce que je vois là est impressionnant. C'est extraordinaire. Que ces choses-là tournent dans le vide. C'est impressionnant. Là, nous ne parlons même pas de tout ce qu'on peut savoir quand on fait la science, l'anatomie, la biologie, la chimie, la physique. Il y a tellement de trésors à contempler. Je ne parle même pas de ça, mais rien que les cieux, rien que l'immensité de la voûte céleste doit faire taire quelqu'un, même s'il ne dit pas « je vais prier Dieu », mais au moins qu'il se taise au sujet de Dieu, qu'il n'ose pas dire un avis négatif, qu'il se taise, dire « ça me dépasse, je ne sais pas ce qui existe ». Voilà. Ça peut se comprendre. Mais affirmer que Dieu n'existe pas avec ce que tu vois là, c'est quand même exagéré. ça relève d'un orgueil surdimensionné. C'est de la folie. C'est pourquoi on dit que c'est l'insensé, c'est des insensés, c'est des fous. C'est ce que Romains 1 nous dit. En se croyant sages, ils sont devenus fous parce que c'est tellement évident. Vous savez, il y a une étoile qu'on appelle Beltégeuse. Son diamètre, c'est 1,2 milliard de kilomètres. Maintenant, pour expliquer ça, on aurait dû avoir un dessin, un grand écran, expliquer ce que c'est que ça, c'est ce diamètre-là. Vous savez, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est combien? C'est 149 millions de kilomètres. 149 millions. Comment même ton cerveau peut imaginer 149 millions de kilomètres? C'est tellement loin, 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 149 millions. Puisque rien que notre Terre, son diamètre, c'est 13 000. 13 000 kilomètres seulement. Alors, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 149 millions. Bon, déjà, vous voyez que pour que nous, on voyage, on passe de Paris à Cayenne, en Guyane, on fait 9 heures. Donc, ce qui veut dire que si tu dois faire le tour de la Terre, tu vas faire peut-être un jour. Là, c'est juste 13 000 kilomètres. Maintenant, si tu dois faire 149 millions de kilomètres, donc tu fais déjà, pour 13 000, tu fais un jour. Donc 149 millions de kilomètres, ça va faire combien de jours? C'est très très loin. Donc ça te fait dans les 1000 jours. 3 ans pour t'approcher du soleil. 3 ans. Bon, maintenant, quand on vous parle d'une étoile comme la Beltégeuse, sa grandeur, c'est quoi? C'est 1,2 milliard de diamètre. Ça veut dire que si vous mettez... Donc, cette étoile-là peut contenir le soleil en son centre, ainsi que toutes les planètes. Donc, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le soleil peut entrer dans cette étoile-là. Donc, c'est plus grand que la distance Terre-Soleil. Alors, c'est inimaginable qu'il y ait un objet qui soit si grand. Est-ce qu'on se rend compte de ça? 149 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Maintenant, il y a une étoile qui est tellement grande que ça peut contenir tout ça. Et le Soleil, et la Terre, et la distance qui les sépare. Ça, c'est un seul objet. Et ce n'est pas la plus grande des étoiles, parce qu'Antares, c'est encore plus grand que la Beltégeuse. Alors, quand on pense à des trucs comme ça, on devient fou. On dit, mais non, pourquoi moi, si petit que je suis, je peux discuter des choses de Dieu? S'il existe ou pas, je me tais. C'est tout. Mais normalement, je devais reconnaître qu'il existe quand je vois de telles choses. Mais si j'hésite encore, au moins que j'aie le respect, enfin, pas le respect, que j'aie l'humilité de reconnaître que je suis trop petit par rapport à de telles immensités. Je ne peux pas polémiquer, faire des controverses sur de telles immensités. Je préfère me taire, dire, ben, si Dieu tu existes, révèle-toi à moi. C'est pourquoi on les appelle insensés. Il est écrit au verset 3, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. C'est ça la base de l'intelligence, reconnaître ce qui est plus grand que toi. Il y a un proverbe en Orient qui dit, le sage, c'est celui qui connaît ses limites. C'est ça le sage. Le sage connaît là où s'arrête sa force. Mais si tu ne connais pas là où s'arrête ta force, tu vas aller te battre contre un tigre et te faire dépiécer en 2 temps 3 mouvements. Mais quand tu connais là où s'arrête ta force, tu vas évaluer les adversaires. Même les animaux, vous savez, les animaux savent là où s'arrête leur force. Ils ne vont jamais attaquer un animal plus fort. Et ils ne vont même pas s'en approcher. Rien qu'à l'odeur de l'animal, ou à la physionomie de l'animal, ils sentent bien qu'ils ne vont pas faire le poids. Mais l'homme est fou. Vous savez, c'est la folie qu'on attrape quand on a beaucoup bu. Hein. Ou bien quand on a pris la cocaïne, l'héroïne, on se croit mesurer 5 mètres. C'est de la folie. Tu es drogué. Comment, quand tu regardes ces choses-là, tu ne peux pas quand même reconnaître que c'est trop pour toi. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Dieu, mais tout de même, reconnaître que tout ça, c'est trop pour nous, ça, on peut forcer quelqu'un à dire, mais là, mon cher, tu es devenu fou. Parce que tu es en train de discuter des choses qui te dépassent. Tu n'es qu'un grain de poussière. Regarde, bien aimé, comment un objet peut être plus grand que la distance Terre-Soleil. Est-ce que c'est logique? Ça dépasse notre cerveau. Comment cet objet-là peut exister? Ça vit comment pour être aussi grand? Vous savez que tous les dessins que vous voyez à l'école où on vous montre la Terre et le Soleil, ce sont des faux dessins. Ça ne respecte pas les proportions. Parce que si on respecte les proportions, sur ton papier, si on dessine le Soleil, la Terre sera invisible. Tellement elle sera petite par rapport au Soleil, tu ne pourras pas vraiment le voir. La grandeur du Soleil par rapport à la Terre, c'est tellement immense que sur un papier, on ne peut pas les dessiner les deux et que ce soit très bien visible. La Terre ne sera qu'un point. C'est tout. C'est ça la réalité. Alors, quand Dieu, du haut des cieux, il regarde que l'homme est en train de polémiquer sur ce genre de choses, il dit, mais ils sont fous, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. L'intelligence, c'est connaître ses limites. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Verset 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Qui se rappelle de ce qu'on est en train de lire là, dans le Nouveau Testament? Ça se trouve dans... Je vais relire. Dieu du haut des cieux regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pardon? Dans quel livre? Non, dans le Nouveau Testament. Ésaïe, ce n'est pas le Nouveau Testament. Donc, dans Romains, chapitre 3, voilà, on va lire ça. Voilà, Romains, chapitre 3, vers le verset 10. On y va, Romains 3, 10.
Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien,
voilà.
Pas même un seul.
Pas même un seul, voilà. Donc c'est l'apôtre Paul utilise ça pour dire l'homme est devenu fou. Il se croit intelligent en disant, mais Dieu n'existe pas. Mais comment ça, Dieu n'existe pas? Regarde quand même les choses. Mais d'accord, même si tu n'as pas encore reçu la révélation claire de son existence, mais au minimum, te taire sur le sujet. C'est-à-dire, ce sont des choses qui me dépassent. Voyez, mais affirmer quelque chose, c'est avoir vérifié. Mais comment tu peux vérifier si tu es incapable même d'aller juste à la Lune? Depuis combien de temps on n'est pas parti à la Lune? Depuis 1969, dans les 72 comme ça. Depuis 1972. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça. Depuis 50 ans, le voyage ne se fait pas. Donc, alors, comment quelqu'un comme ça peut parler pour dire Dieu n'existe pas? Tu n'es même pas capable d'aller juste à la planète qui suit, la planète Mars. Tu es incapable. Maintenant, tu veux discuter sur Antares, sur la belle Tégeuse. Mais non, mais c'est de la folie. Pour dire que Dieu n'existe pas, est-ce que tu es parti vérifier dans tout ça? Est-ce que tu es parti vérifier? C'est de la folie, tout simplement. Que tu ne comprennes pas encore, tais-toi, dis seulement, bon, moi je ne crois pas en Dieu parce que ça n'est pas venu en évidence en moi, mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Ça, c'est de l'effronterie, c'est de l'orgueil tout simplement. Ce n'est pas normal. Conséquence, Dieu va montrer aux gens, regardez ceux qui disent que je n'existe pas, regardez ce qu'ils font. Ils violent des petits enfants, regardez ce qu'ils font. Ils sont dans le sadomasochisme. Regardez ce qu'ils font. Ils sont dans la drogue. Regardez ce qu'ils font. Ils soutiennent les dictateurs. Ils font des expériences sur des chimères, construire des animaux. Vous savez, ce qui est fait dans le laboratoire de Wuhan, en Chine, le laboratoire d'où vient le coronavirus, ils prennent un virus d'animal inoffensif, ils essayent de le modifier pour trouver un gain de fonction. Ça s'appelle gain de fonction. Donc, pour lui donner des capacités d'être plus dangereux. Est-ce que ça, c'est normal? En se disant que, comme ça, le jour où il y aura un virus dangereux, on pourra le combattre, on aurait déjà trouvé la solution. Donc, ils rendent dangereux un virus qui est anodin pour pouvoir trouver la solution plus tard au cas où un apparaîtrait. Donc, ça s'appelle trouver un gain de fonction. Est-ce que c'est normal? C'est la folie. Dieu nous dit, regardez ces gens-là qui se prétendent intelligents, ce qu'ils font. Ce n'est pas construire de belles voitures qui fait l'intelligence. L'intelligence, c'est connaître ses limites. Connaître que je suis petit, quelle que soit la voiture que je fais, qu'est-ce que c'est cette voiture devant la lune? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est cette voiture devant le soleil? Une lampe qui ne s'éteint pas, ça fait des milliards d'années. Selon eux, ils donnent la date du soleil des milliards d'années. Donc, mais une lampe qui ne s'éteint pas depuis des milliards d'années. C'est eux-mêmes qui disent que le soleil est une étoile naine. C'est-à-dire, ce n'est même pas une petite étoile. Le soleil n'est même pas une petite étoile, c'est une étoile naine. Donc encore plus petit qu'une petite étoile. Effectivement, essayez de vous intéresser à ça. Vous allez voir que le soleil est invisible quand on commence à le mettre à côté de la belle tégeuse. Quand on commence à le mettre à côté d'Antarès, ça n'existe même plus. Mais quand maintenant vous comparez le soleil à nous, il est trop, trop grand. Alors, monsieur, comment tout ça peut venir d'où? Soyons sérieux. Alors, même si tu n'as pas encore trop compris Dieu, au moins, sois humble, sois silencieux pour dire Dieu, si tu existes, fais-toi connaître à moi. Mais ne viens pas en orgueilleux, tu ne fais pas le poids devant les cieux. C'est pourquoi c'est écrit Dieu du haut des cieux. Lui, il est plus grand que le ciel. Donc, quand il te met à côté du ciel, tu ne fais pas le poids. Il dit, ah, voilà, c'est des fous. Mais il est écrit, Dieu dispersera. Alors, verset 6, hein, c'est écrit, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Bien aimé, le jour où il paraîtra, ils trembleront d'épouvante. Ils réaliseront qu'ils ont provoqué. Il est écrit, les démons croient et ils tremblent. Les démons connaissent Dieu. Eux, ils tremblent. Mais c'est l'homme qui n'a pas encore vu Dieu comme il faut. Et c'est le jour où il paraîtra, ils trembleront. Verset 6, d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Bien-aimé, notre temps arrive. Notre temps arrive. Où on regardera la défaite des méchants quand notre Dieu paraîtra dans sa gloire. Israël se réjouira. Mais il cherche des gens pour fortifier son peuple. Qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Donc, qui va fortifier les chrétiens? Dire, ne vous inquiétez pas. Soyez libérés. Lève-toi, bien-aimé, sois éclairé par Dieu et délivre le peuple du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 54.
Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices.
Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis.
Amen, amen, amen. À la fin, c'est « Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Donc, quand quelqu'un réalise vraiment la délivrance du Seigneur, quand il réalise la grandeur de Dieu, il ne s'inquiète plus de voir qu'il y ait des ennemis. Il ne s'inquiète plus qu'il y ait des maladies, parce que Dieu nous délivre, quel que soit le mal. Parce que là, on parle des adversaires, mais les adversaires, ce n'est pas seulement les démons, c'est aussi tout ce qui peut paraître comme un blocage pour nous. Tous ces adversaires-là vont tomber, bien-aimés. Du coup, quand on les regarde, on n'est plus inquiet. On se souvient de l'histoire de deux rois, chapitre 6. La ville de Samarie est environnée de soldats ennemis qui s'apprêtent à attaquer les enfants d'Israël. Et Élisée veut sortir de cette ville-là avec son serviteur. Son serviteur dit à Élisée, mais on est environné de soldats ennemis, de soldats syriens. On va faire comment? Quelle a été la prière d'Élisée? Seigneur, montre à mon serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont visiblement devant nous, les soldats. Mais ceux qui sont avec nous en réalité, mais ils sont invisibles. Ouvre-lui les yeux pour qu'il les voie. Bien aimé, nous revenons au thème de Psaume 52 quand on a commencé pour dire que la réalité, elle est invisible, mais c'est-elle la vraie réalité? Ta maladie, elle est visible, mais elle n'est qu'une apparence. La réalité, c'est que ta vie est entre les mains de Dieu. Ça, c'est plus que la force de ta maladie. Maintenant, comment rendre cette réalité invisible, concrète? C'est par la foi. C'est la foi. Mais dans ce cas, non, plutôt dans certains cas, Dieu rend ça visible physiquement. On peut lui réclamer ça, comme Élisée lui a réclamé d'ouvrir les yeux de son serviteur pour rendre cette réalité invisible visible. On peut réclamer ça aussi en demandant la guérison. On dit, Seigneur, je sais qu'à la croix, Christ a pris ma maladie, mais je veux réaliser ça physiquement. Je veux que ça devienne concret. On peut, c'est la foi qui compte. Et là, quand Élisée a fait cette prière, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la montagne remplie de soldats sur des chars de feu. Et ils étaient de loin plus nombreux. Déjà, vous savez, ces soldats, les soldats de ce genre-là, un seul suffit pour tuer 180 000 hommes. Parce que déjà, il est invisible déjà. Il n'a pas un corps comme nous. Donc, il peut tuer 180 000 comme ça se fut dans le cas de l'histoire de Sanhérib. Mais là, non seulement un seul de ces soldats est plus efficace que toute l'armée des humains, mais il y en avait en nombre plus que les soldats humains. Bon, imaginez que là, il n'y a même pas de combat. Il n'y a pas de combat. Et donc, quand son serviteur voit ça, qu'est-ce qui lui arrive directement? La paix, la force, parce qu'il a vu. Mais Dieu nous exhorte à avoir cette attitude sans voir. Sans voir, parce que si c'est par la vue, ce n'est plus la foi. La vue, ça sera après la mort. Pour l'instant, Dieu veut qu'on fasse les choses sans voir, mais en croyant. Et de temps à autre, il va rendre ce qui est invisible, visible. Mais nous ne devons pas exiger la visibilité pour être fort. Nous ne devons pas exiger la visibilité pour croire. Nous devons croire d'abord. Nous devons marcher par la révélation de Dieu et non pas par la vue. C'est pourquoi il est écrit, on est dans Psaume 54, car il me délivre, verset 9, de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Donc quand je vois mes ennemis, je m'imagine le nombre de soldats qui sont pour moi, qui sont invisibles, quoi. Donc ils sont à la hauteur de ce que je vois dans mes ennemis. Donc plus les difficultés sont grandes, ça veut dire que Dieu a préparé des solutions que je ne vois pas plus grandes que la difficulté. Amen. Là, on fait une pause pour présenter à Dieu tout ce qui a paru comme grand, comme mauvaise nouvelle pour toi, pour moi, aujourd'hui, hier ou il y a quelques jours. Nous allons dire que nous nous réjouissons de tout ça parce que Dieu a préparé une solution plus grande. Attaquons cela au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons proclamer la défaite de nos ennemis. Tout ce que les démons sont en train de faire pour nous nuire, nous détruisons cela. J'ordonne à tous ces démons, à tous ces sorciers, j'ordonne à la maladie, Jésus, comme toi tu as menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre, j'ordonne à tout cela de lâcher prise au nom de Jésus. Ça sort, vous êtes vaincus. À cause du sang de l'agneau, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et je détruis la puissance des œuvres de ténèbres lancées contre nous. Ils sont venus contre nous par un seul chemin. Ils fuient par cet chemin. Je détruis les œuvres des démons dans la vie de chaque personne qui suit cette étude biblique. Je détruis cela. Les projets de force des ténèbres pour nous empêcher de servir l'Éternel, je détruis cela. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je proclame cela et nous allons voir ta gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 55.
Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font chaque jour et nuit. Pardon. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel. et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie.
Amen. Voilà, donc une fois de plus, David parle de toutes les menaces, toutes les souffrances qui peuvent l'atteindre. Et il dit, ça donne envie au verset 7, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. » Mais c'est faux tout ça parce que ce n'est pas en allant au désert qu'on trouvera le repos sur terre. Et le diable agit avec son réseau dans le monde entier. C'est écrit dans 1 Jean 5,19, le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Donc qu'on aille en Asie, aux États-Unis, où on veut, même dans des endroits où il y a 90% des chrétiens, il y aura toujours des combats. Voilà, il y aura toujours des combats. Mais on doit être honnête, parfois on a envie, comme il le dit, d'avoir des ailes de colombe, de changer de lieu, quoi. Et souvent même la plus grande envie qui saisit les chrétiens, c'est d'aller au ciel, quoi. Et c'est pourquoi je dis souvent, si le suicide était permis, les chrétiens feraient partie des plus grands suicidés, quoi. Il y en aurait beaucoup, beaucoup qui chercheraient à simplifier les choses en se suicidant et pour aller au ciel. Voilà. Le chrétien n'est pas accroché à ce monde, quoi. Mais sauf qu'il est en mission. Et quand on est en mission, on est un soldat. On doit accepter les difficultés de la mission. C'est le devoir du chrétien d'accepter les difficultés de la mission. Mais un vrai chrétien préférerait s'en aller. Mais après, quand on se dit, bon, je suis en mission, et puis il y en a aussi qui ont l'esprit de guerrier, qui se disent, attends, je ne veux pas fuir. Voilà, je me bats jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est cet esprit-là que tous les chrétiens doivent avoir, l'esprit de combattant. Se dire, bon, c'est trop ce que je vis, mais un guerrier ne fuit pas la bataille. On doit mourir sur le champ de bataille. C'est ça. Et voilà. Mais l'envie de fuir vient à tous. Mais on doit résister à ça en se disant, bon, Dieu est avec moi, je continue. Même si le monde est devenu pourri, ben, Dieu est avec moi, je continue jusqu'au bout. Voilà. Question ?
Oui, question Internet. Plutôt que réclamer, ne vaut-il pas mieux dire « Seigneur, que ta volonté se fasse » et accepter que le Seigneur exauce ou pas notre prière?
Mais réclamer quoi?
Certainement des choses au Seigneur. Ce n'est pas précisé. C'est écrit plutôt que réclamer. Bon, c'était par rapport au chapitre 53 et 54.
Oui, mais réclamer quoi? Bon, mais toujours est-il qu'il y a un verset, Matthieu 7, qui nous dit « Demandez ». On vous donnera. Donc, on peut demander des choses au Seigneur. Donc, il fallait que la question soit précise. Voilà. On peut donner le micro au frère Rodrigue. Hein. Oui, mais c'est la procédure. Oui. Oui, ça marche. Ah, ça c'est pas allumé en vert là, c'est pas allumé. Voilà, il faut aller allumer.
Là maintenant c'est bon.
OK.
Oui, je disais que c'est par rapport aux serviteurs du prophète Élisée quand ils étaient entourés par
les ennemis
et ils se posaient la question de par rapport au fait de savoir comment ils vont faire pour traverser pour s'en sortir. Et là, Élisée a dû demander au Seigneur
de lui ouvrir
les yeux. Et par rapport à nous qui devons vivre selon la foi, est-ce que par rapport à la question, doit-on à chaque fois, quand on a des... Vous avez mentionné le cas où parfois, quand on est malade, on demande au Seigneur de nous faire vivre... cette réalité invisible aujourd'hui comme ça, est-ce qu'à chaque fois nous devons aussi demander au Seigneur de nous faire vivre cette réalité maintenant ou de lui dire que sa volonté soit faite Si la réalité, elle doit être vécue, on la vit, sinon ce serait sa volonté à la fin.
Oui, mais en même temps, le Seigneur veut qu'on manifeste la foi en ce que lui-même il a proclamé. Il a dit qu'en son nom, nous prierons pour les gens, ils seront guéris. Donc on doit avoir foi en cela. Maintenant, en tant que chrétien, on doit accepter la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand on a prié, on doit se dire qu'à la fin, que sa volonté soit faite. Mais ça ne nous empêche pas, dans un premier temps, d'exprimer notre désir. Notre désir, c'est la guérison. Maintenant, dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite. Mais il faut, parce qu'il veut aussi l'expression de la foi. Il a dit, le juste vivra par la foi. Donc, j'exhorte les chrétiens vraiment à exprimer la foi en demandant la concrétisation de ce qui est invisible. Parce qu'il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Moi, je dirais aux chrétiens toujours de rechercher la guérison jusqu'à la mort. Parce que c'est écrit que c'est ça, c'est notre héritage. Donc, quand c'est ton héritage, tu dois le demander jusqu'au bout. Maintenant, en même temps, on dit que la volonté de Dieu soit faite. Mais moi, j'exprime ce dont j'ai besoin. Voilà. OK. Nous revenons au psaume 55. Maintenant, il y a un point sur le psaume 55, c'est qu'il dit, mais dans la deuxième partie, je préférerais des ennemis étrangers, mais là, j'ai des ennemis proches de moi. C'est ce qu'on appelle des infiltrés. Donc, c'est encore plus dur que d'avoir des ennemis dont on sait à la base qu'ils sont ennemis, parce qu'ils sont à l'écart. On peut les voir à distance. Ce qui est dur, c'est d'avoir celui qu'on considère comme un ami. C'est écrit au verset 13, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai si c'est un ennemi. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Voilà, là, la particularité du psaume 55, c'est que l'ennemi est un infiltré. Et vous savez, quand on dit infiltré, ce n'est pas toujours des gens qui ont pris la décision de nous infiltrer. Mais il peut y avoir des gens qui sont avec nous sans avoir les mêmes objectifs que nous. Du coup, ils sont en quelque sorte infiltrés puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs, mais on est ensemble. Donc, un exemple, c'est à la sortie d'Égypte, il est écrit qu'il y avait un ramassis qui s'était rajouté aux enfants d'Israël. Donc, ils n'avaient pas la même adoration, le même Dieu, mais ils se sont rajoutés dans ce mouvement-là. Même s'ils n'ont pas décidé d'infiltrer les enfants d'Israël pour leur faire du mal, mais ils étaient quand même infiltrés parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Et du coup, n'ayant pas les mêmes objectifs, ils ont contribué à freiner l'œuvre de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Donc quand on dit infiltré, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui a décidé avec Satan de nous infiltrer. Il y a ce cas-là, le cas le plus extrême, c'est des gens qui sont envoyés par l'armée satanique pour se rapprocher de nous, pour nous faire du mal. Mais il y a aussi le cas des gens qui sont au milieu de nous sans avoir les mêmes objectifs qui sont de servir Dieu sans intérêt, de marcher par la foi, de mettre Jésus avant toute chose, de mettre le ciel avant toute chose. Ils n'ont pas ces objectifs. Il y a quelqu'un peut-être dans notre système de travail, mais qui cherche la popularité, qui cherche l'argent, qui cherche la célébrité. Voilà, c'est un infiltré quand même, puisqu'ils ne travaillent pas pour la même cause. Voilà. Et David dit, ça, c'est ça qui me fait du mal. Donc, quelqu'un qui est proche, qui était un ami, et ça nous rappelle qui ? Ça nous rappelle qui cette affaire-là ? Oui, il y a quelqu'un. Ça nous rappelle qui ? Judas. Ça nous rappelle Judas. Donc, il est écrit, il est écrit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Voilà. Et ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Et Judas était l'un des proches. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Effectivement, Judas même a chassé aussi les démons. Il a guéri aussi des malades. Verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour de mort. En quelque sorte, de mort. C'est ce qui s'est passé pour Judas qui s'est suicidé. Donc, il est en quelque sorte descendu vivant au séjour de mort, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Donc, c'était très méchant de trahir quelqu'un comme Jésus qui t'avait fait que du bien, qui t'a fait que connaître de bonnes choses. Et c'était très, très méchant. Le malheur a atteint Judas. Et souvenez-vous, quand on est venu arrêter Jésus, et quel a été le signe de reconnaissance? C'était le baiser de Judas. Mais malgré ça, qu'est-ce que Jésus lui dit? Mon ami, fais ce que tu as à faire. Voilà. Donc, il sait que ce baiser-là, c'est le baiser, c'est le signe, mais il appelle toujours mon ami. Ça, c'est le haut niveau de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens qui se la jouent au grand chrétien, mais le grand chrétien, c'est celui qui peut appeler son ennemi quand même son ami, hein, jusqu'à quelqu'un dont tu sais que c'est un infiltré, mais tu l'appelles quand même ton ami parce que vous avez vécu en ami. Voilà. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'état, le Christ. Alors que le baiser contribue à le trahir, il appelle cet homme-là, mon ami. Parce qu'il ne veut garder que le côté ami de ce qu'ils ont été. Fais ce que tu as à faire. Avec tristesse, mais c'est cela. Mais la fin de ces personnes-là, elle est terrible. Elle est terrible. Dieu entendra verset 20 et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Ça veut dire que Dieu est assis sur son trône. Pendant que les infiltrés nous font des coups bas, Dieu est en train de voir tout ça. C'est pourquoi, d'où la phrase « Dieu entendra, il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. » Il y a un verset qui ressemble à celui-ci où on dit que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. C'était pour dire, pendant qu'il y a tous ces bouleversements-là, Dieu, lui, est imperturbable. Il est toujours tout-puissant. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout. Il sait ce qui se passe. Rien n'échappe. Ce n'est pas comme si la Deuxième Guerre mondiale le dépassait. Ça ne le dépassait pas. Il voyait, mais tout cela contribuait à ses plans. Voilà. Il pouvait arrêter ça d'un instant à l'autre. Il a tout contrôlé. Donc, pendant que les infiltrés font leur travail, Dieu voit. C'est pourquoi un conseil que je donne aux justes, hein, ne cherchez pas à tout savoir. Qui c'est qui vous fait quoi? Quel complot tel est en train de faire contre vous? Ne cherchez pas tout ça. Soyez honnête envers Dieu. C'est Dieu qui seul peut nous défendre. Nous, on n'est que des humains. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas savoir tout ce qui se trame derrière nous. Sinon, on deviendrait Dieu. La solution, ce n'est pas de monter une milice personnelle pour espionner les gens. La solution, c'est être droit avec Dieu. Si tu es droit, Dieu te défendra parce que lui, il voit tout. Il voit tout. C'est un appel à nous confier en Dieu. Il ne faut pas se transformer en enquêteur. Commencer à savoir, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Je les ai vus réunis à trois. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais j'ai appris que tel a invité tel. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ce n'est pas ton problème. Aime tout le monde et confie-toi en Dieu. Considère les gens tels qu'ils se présentent à toi. Il est écrit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour croit tout. Tel que quelqu'un se présente à toi, tu le considères ainsi. Si la personne fait autre chose par derrière, Dieu voit. Ne cherche pas à voir, confie-toi en Dieu, Dieu te protégera de tout. Parce qu'il est sur son trône, il voit tout. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons clôturer là, dans la prière. Nous allons prier que le Seigneur nous apprenne la maîtrise de soi. On ne doit pas chercher à tout savoir. On doit se confier en lui. C'est lui qui nous protège de tout ce qui peut se tramer derrière nous. Et nous allons prier également afin que le Seigneur nous donne de l'humilité pour reconnaître dans la création sa grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous donnes de l'humilité afin de reconnaître dans tout ce que nous observons dans la création ta grandeur, ta puissance. Que tu nous donnes de l'humilité, de la simplicité pour reconnaître notre petitesse, Père éternel. Je pense qu'à chaque fois qu'on verra notre petitesse, on verra ta grandeur, ça augmentera notre confiance en toi, Seigneur. Alors qu'à chaque fois que nous jouons aux hommes forts, nous perdons en confiance en toi et nous ne sommes pas plus forts qu'avant, en réalité. Seigneur, nous voulons être simples et te considérer comme étant le seul Dieu, le seul véritable roi, le seul sauveur. Ô Seigneur, nous proclamons cela. Nous ne sommes rien, mais toi, tu es grand. La création montre cela. Seigneur, nous venons aussi prier que tu nous aides à être dans la paix par rapport à tout ce qui peut se tramer dans le monde invisible contre nous, tout ce qui peut se tramer parmi les hommes contre nous. Seigneur, que nous gardions la paix, Seigneur, comme notre Seigneur Jésus avait confié la trésorerie à quelqu'un qui n'était pas correct par rapport à l'argent parce qu'il savait que c'était ta volonté et lui, il avait gardé la paix. Seigneur, nous voulons garder la paix, quelles que soient les circonstances, parce que nous savons que tu vois tout. Tu vois tout. Ô Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi, car c'est la foi qui triomphe de ce monde. Nous te bénissons pour ta fidélité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.